marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Dans le siècle, dans le monde, retrouver les autres et la marche du monde.
Le sacrifice de Jan Palach.
Le jour fatidique, je passais en tramway sur la place Venceslas. J'aperçus un jeune homme debout et qui s'aspergeait d'un liquide à l'aide d'un bidon en plastique.
Mort pour les droits démocratiques des peuples de notre État, telle est l'épitaphe de Jan Palach, cet étudiant tchécoslovaque qui s'est brûlé vif pour protester contre l'occupation soviétique.
La vie de Jan Palach a été brève. Il a choisi d'y mettre fin à 20 ans, alors qu'il venait d'entrer à la prestigieuse Université Charles de Prague. Sa vie, c'est tout ce qu'il peut mettre dans la balance. L'histoire tchèque est ainsi faite qu'elle offre davantage d'exemples de martyrs que de combattants victorieux. Ils se prénomment d'ailleurs ces martyrs Jean, très souvent. Jean Nepomucen, canonisé, dont une statue orne le pont Charles. Jean Hus, déclaré hérétique et mort, brûlé lui aussi. En janvier 1969, il y a maintenant donc 50 ans, le grand mouvement du printemps de Prague est interrompu et renversé depuis plusieurs mois. Alexandre Dubček, premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque, l'incarnait, même s'il était souvent dépassé par le vent de réforme qui soufflait. Réforme politique, économique, morale. Jan Palach, qui vivait alors avec sa mère à une trentaine de kilomètres de la capitale, avait accompagné, à sa modeste place, nombre de manifestations. Moscou, en revanche, avait suivi le printemps avec une inquiétude grandissante. Que la parole ne fût plus contrôlée par la police politique l'inquiétait, et que le mouvement pût fleurir ailleurs dans le bloc soviétique l'angoissait.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
En août 1968, les troupes du pacte de Varsovie entraient dans le pays et prenaient le contrôle militaire de Prague.
Les chars soviétiques sont à Prague. Les troupes soviétiques, bulgares, polonaises, hongroises et est-allemandes ont envahi la Tchécoslovaquie cette nuit.
Ici Prague. Attention, nous venons de recevoir une déclaration du gouvernement tchécoslovaque. Je cite. Le gouvernement a donné l'ordre au ministère des Affaires étrangères de protester contre la conduite des troupes d'occupation et contre leurs activités envers les organes du gouvernement. C'était une proclamation officielle du gouvernement tchécoslovaque. Vous êtes à l'écoute de Radio Prague en langues étrangères. Nous continuerons nos émissions aussi longtemps que les circonstances le permettront.
L'avenue Vinohradska est déjà remplie de chars. Du toit de la radio, on voit au moins 10 blindés qui avancent. Les gens essaient de placer des barricades pour couper l'accès de la radio aux envahisseurs. On entend un échange de coups de feu dans l'avenue. Soldat, tu es communiste. Rentre chez toi. Regarde ce que tu as fait de notre Prague. Barbare, Gestapo.
Le mot Svoboda est souvent prononcé dans les manifestations. Ça veut dire liberté. C'est aussi le nom du général réformateur très populaire qui est le président de la République. Poste impossible, rude, responsabilité quand on se retrouve pris dans l'étau du pacte de Varsovie. D'un commun accord, Svoboda et les autres responsables du printemps n'ont pas voulu demander à l'armée tchécoslovaque de se défendre. Ils ont en revanche recommandé aux civils de mener une résistance sourde, mais pas muette. Un peu partout, en même temps que les slogans qu'on vient d'entendre, on chante cette adresse de Krill aux soldats des pays frères. Et vous voilà donc, messagers de la nuit, qui nous enfonçaient un poignard dans le dos. Vous voilà donc, merci à vous, frères agresseurs. Merci beaucoup, nous n'oublierons jamais, nous n'oublierons jamais.
Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi. Poslové noci, která dozad bodá dýku, tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajně přelíbezné zavraždili víru. na cestě rudé šípky, jako pomník padlých. Vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasíba, bratě za chvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Merci, chante Krill, merci pour vos baisers au goût d'amandes amères. Sur une terre gracieuse, vous avez assassiné la foi. Le 11 août, Jan Palach avait fêté son 20e anniversaire. Drôle d'anniversaire. Au début de l'occupation, il a quitté l'appartement de sa mère, à Ousetati, et il a rejoint Prague. Il est déjà revenu quand Alexandre Dubček intervient à la télévision. Dubček est extrêmement ému. Il revient, lui, d'Urs, où avec la direction réformatrice de son parti, il a été traité en ennemi et en prisonnier par les soviétiques. Il a dû signer ce qu'on peut par euphémisme appeler les accords de Moscou qui entérinent l'invasion et ses conséquences.
Dans ce discours improvisé, il y aura de temps à autre des interruptions. Et je pense que vous en comprendrez la cause. Je vous en prie, évitez les provocations. Ne laissez pas la panique s'installer parmi nous. Dans cette situation difficile, nous n'avons pas d'autre solution que de regrouper nos forces et de rassembler nos esprits pour accomplir le travail à venir. Soyons une nation au sein de laquelle chacun est capable de décider en son âme et conscience. Je vous en prie, mes chers concitoyens, Tchèques, Slovaques, communistes et membres des autres partis politiques du Front National, je vous en prie, ouvriers, agriculteurs, intellectuels, restons unis, calmes et modérés. Comprenons que seule notre fidélité au socialisme, notre honnêteté et notre force de caractère sont les garanties d'avancer.
Calme et modéré, les temps à venir qu'annonce Dubček, ce sont les temps de la normalisation, sous l'œil veilleux des soviétiques qui observent si les Tchécoslovaques sont encore socialistes. Le reportage que voici est signé de Jean-Pierre Marchand. C'est à l'automne 1968 que la télévision française l'a diffusé dans l'émission qui fait suite à 5 colonnes à la une.
Prague, lundi 1er octobre, 8h20. Devant le siège du comité central, comme tous les jours, de petits groupes attendent l'arrivée de M. Dubček, journaliste étranger, fleurs, policiers tchèques avec leurs armes. Arrivée de M. Dubček. Nous sommes heureux de vous voir, disent les dames. Nous voudrions vous recevoir chez nous. Nous travaillons au bureau de poste. Merci, les Dubček, merci, vous êtes gentils, ça me fait plaisir. Alexandre Dubček, premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque, est le symbole des idées qu'il incarne et pour lesquelles il s'est battu, et que lui-même n'est plus en mesure d'exprimer librement. Debout Lénine, disaient les murs en août. Brejnev est devenu fou. Les inscriptions sont maintenant effacées, presque toutes, mais sur les murs, les noms réunis de Dubček et Svoboda brisent le silence. Façade, criblée de balles, du Rue des Pravaux, journal du Parti communiste. Aujourd'hui, les troupes étrangères sont stationnées hors des villes. Premier résultat des accords de Moscou. Première étape vers la normalisation. Moscou n'est pas loin, dit l'inscription. Tandis qu'on remet en état les plaques des rues, arrachées ou barbouillées au premier jour de l'occupation. Monsieur Soror est philosophe, chargé de cours à la faculté de droit. Monsieur Chamalek, juriste, chargé de cours à la faculté de droit, je leur ai demandé s'ils avaient peur de l'avenir. J'ai peur de la mutation du pessimisme en optimisme. Et je pense à cette héroïne de Moravia qui avait été violée et qui finit par être heureuse de ce qui à l'origine était pour elle une souffrance. Quand je regarde l'avenir, je souhaite que nous restions conscients de ce qui est contre nature. Monsieur Bartoszek écrit dans Politica, une revue politique née depuis le mois d'août. Le numéro 6 est sur le point de sortir, mais des difficultés sont apparues aujourd'hui avec les autorités.
Nous avons essayé de faire un hebdomadaire depuis quelques semaines. Nous étions peut-être un peu fous, parce que nous avons intitulé la politique, Politica en tchèque. Peut-être il va cesser de paraître, il va paraître dans les conditions où, sous la direction, nous n'acceptions pas. Mais il y a toujours pas mal de choses, je crois, qui restent. On peut écrire un livre. Je crois pour moi, personnellement, en dehors des livres, si je ne pourrais plus écrire, c'est-à-dire faire ce travail de publiciste, j'aurais toujours la possibilité de faire les conférences, ce qu'on a fait dans le régime bureaucratique. Je ne vais pas me faire les illusions. Les illusions, parce qu'on parle des dangers qui nous menacent, etc., etc. Moi, je suis passé... j'ai passé maintenant une semaine à Paris, alors là-bas, tout le monde nous regarde comme les animaux qui vont dans une cage et qui, je ne sais pas, qui risquent pas mal de choses, etc. On nous voit dans les trains qui passent, je ne sais pas où. Mais pour moi, la beauté de la société, c'est la beauté des contradictions.
En cette fin de 1968, la question de la censure est centrale, notamment pour le milieu de l'université Charles, que Yann Palach vient de rejoindre. Il y est particulièrement sensible. On entendait Bartoszek qui racontait qu'il venait de Paris. Entre l'invasion et la rentrée universitaire, Yann Palach avait, lui, participé aux vendanges en France pendant quelques semaines. Le printemps pragois, on le sait, avait précédé le mai français. Cependant, les militants de l'extrême gauche française voulait l'ignorer quand il ne lui était pas hostile. Palach a-t-il constaté cette césure alors que la parole continuait de circuler librement dans notre pays? Il lui est arrivé de penser que la France était un autre monde.
When I entered the first meditation,
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Il y a 50 ans, Yann Palach mourait par le feu à Prague pour protester contre l'occupation de son pays par les partis communistes frères du bloc soviétique. Son exemple continue d'inspirer des œuvres, et d'abord chez ceux qui étaient juste un peu plus jeunes que lui. Nous venons d'entendre un extrait des funérailles de Palach par un compositeur américain, Phil Klein. Il l'a écrite au début du millénaire. Depuis, la cinéaste polonaise Agnieszka Holland lui a consacré un long film, Sacrifice. En France, c'est un quadragénaire, Anthony Citruc, qui a écrit un livre l'an passé, La vie brève, de Yann Palach. On sait qu'à notre époque, c'est la Tunisie qui a repris la tradition de l'immolation par le feu, du vendeur ambulant Bouazizi, il y a 8 ans, au journaliste Zorgi, à Noël dernier. Au temps de Yann Palach, elle avait été établie par des bonzes à Saïgon pendant la guerre du Vietnam. Depuis 1963, ils avaient été nombreux à se passer le flambeau comme un relais. Yann Palach se comportera d'ailleurs comme s'il était le flambeau numéro 1 d'un groupe cohérent. Le 15 janvier, il a quitté très tôt le matin Ussetati où il a passé sa dernière nuit chez sa mère. Il rejoint sa chambre à la cité universitaire, à Prague. Il semble qu'il ait erré assez longtemps dans la vieille ville. Il achète 2 récipients en plastique qu'il fait remplir d'essence, puis il rejoint la place Venceslas.
Le jour fatidique, je passais en tramway sur la place Venceslas. En passant devant la balustrade du musée national, j'aperçus un jeune homme debout contre ce mur-là et qui s'aspergeait d'un liquide à l'aide d'un bidon en plastique. Je croyais qu'il était ivre. Alors que le tramway avançait d'une 20aine de mètres, je n'ai pas quitté le jeune homme des yeux.
Et soudain, je vois courir un homme, couvert de flammes, les pieds à la tête.
Après avoir parcouru une 30aine de mètres, il a regagné le trottoir, puis s'est de nouveau élancé vers la chaussée et s'est mis à courir en faisant des cercles irréguliers.
Alors, j'ai enlevé mon manteau et j'ai couru vers lui.
Une femme très énergique a crié « Les manteaux !»
Et puis d'un coup, il s'est tourné un peu et s'est laissé tomber à terre. Et j'ai jeté sur lui le manteau.
Il y avait sur la balustrade un blouson bleu en tissu synthétique et un sac.
Sur la balustrade, donc près de la fontaine, au pied de la statue de Saint-Venceslas, un blouson bleu et un sac, et dans le sac, une lettre. Yann Palach en avait écrit 3 autres qu'il avait confiées à la poste. Et quelques jours auparavant, il avait aussi signé une carte postale, ton Jean Hus. La lettre destinée à être communiquée de suite, la voici. Elle fait référence à un groupe d'étudiants restés aussi mystérieux qu'ils ont pu être déterminés. Ils auraient décidé de s'immoler l'un après l'autre à la façon des bonzes du Vietnam.
Étant donné que nos deux nations sont au bord du désespoir, nous avons décidé de protester et de réveiller le peuple de ce pays de la façon suivante. Notre groupe est composé de volontaires, déterminés à s'immoler par le feu pour notre cause. J'ai eu l'honneur de tirer au sort le numéro 1. Par conséquent, il me revient le droit de rédiger les premières lettres et de devenir le premier flambeau. Voici nos revendications. Premièrement, la suppression de la censure. Deuxièmement, l'interdiction du bulletin Spravi. Si nos revendications ne sont pas satisfaites d'ici 5 jours, c'est-à-dire au 21 janvier 1969, et si le peuple ne manifeste pas son large soutien par une grève illimitée, d'autres flambeaux s'allumeront. Pensez donc que parmi eux pourraient figurer des personnes qui vous sont chères. Flambeau numéro 1. Postscriptum, j'espère qu'il n'y aura pas besoin de plus de lumière.
Yann Palach va être sauvé par des témoins et transporté dans une clinique. Ironie de l'histoire, Alexandre Dubček est lui aussi hospitalisé au même moment, épuisé qu'il est par les tensions auxquelles il est soumis. Certains plus tard soupçonneront les soviétiques de l'avoir empoisonné. Le personnel de la clinique où s'est rendu Yann Palach entoure de suite l'étudiant, lui administrant de hautes doses de morphine. Pour le maintenir en vie, on lui donne aussi toutes les informations qui rendent compte de l'écho de son geste. On lui lit les journaux. On allume le transistor sur sa table de chevet au pied d'un bouquet. L'agonie va durer 3 jours. Les infirmières notent ses dernières paroles, les enregistrent. Yann Palach est même filmé. La voix déchirante que vous allez entendre dans quelques instants, c'est la sienne.
L'infirmière qui nous l'a amené nous a tout expliqué. Son état était grave. Son corps était brûlé à 85 ou 90%, et mis à part ses pieds qui n'avaient pas été touchés, car il portait des souliers de cuir, il était couvert de brûlures au troisième degré. Et en plus, l'inhalation lui avait brûlé les voies respiratoires.
Je sais que quand nous sommes arrivés, maman a dit « Mon petit Yann, pourquoi t'es-tu fait cela ?» Et lui, il avait énormément de mal à articuler. Et il a dit « Pour vivre, l'homme a besoin d'espace. »
Mais Yann, pourquoi t'es-tu fait ça? Tu as voulu réveiller les gens et exprimer ton désaccord avec ce qui se passe. Désaccord avec quoi concrètement? Te brûler? D'accord, mais quand, à quelles conditions vous arrêterez-vous? Ton geste touche tout le monde. Cela suffit pour que le monde entier soit déjà au courant.
Après le témoignage de son frère, Jirji, c'était donc, pendant ces derniers instants, la voix de Yann Palach qui revenait sur les conditions qu'il avait posées dans sa lettre. Il disait d'ailleurs qu'il n'avait pas le droit de se sentir fier, utile peut-être.
Dimanche, Eva Bednarikova, son amie de fac, est venue. On avait du mal à le comprendre. Je devais me pencher sur lui pour saisir ce qu'il disait et pour traduire ses mots à Eva Bednarikova. Je peux vous lire précisément ce que Palach a dit. Il lui demandait, écrivez un appel à la faculté des lettres. Je vais le signer. 5 jours est un délai trop court. Qu'ils attendent 10 jours. Qu'ils ne fassent rien sans moi. Je veux tous les voir. Après, je pourrai m'en aller dignement. Que Holeček vienne, je veux le voir. L'entretien avec M. Holeček a été aussi très bref. Mais lorsqu'il a parlé à M. Holeček, il paraissait avoir changé totalement d'avis. Il a demandé qu'il cesse carrément les sacrifices, qu'il reste en vie et continue de lutter. J'ai noté aussi cette conversation et je peux la lire. Que plus personne ne le fasse, qu'il ne le fasse pas. Il vaut mieux qu'il reste en vie et que vivant, il lutte. Ce furent sans doute ses derniers mots, car le jour même, dans l'après-midi, il est mort.
On ne sait quasi rien du groupe des 14, dont Yann Palach aurait été le numéro 1. S'il a jamais existé, il est en tout cas dissous par ses ultimes paroles.
Le lendemain, 20 janvier, le président Svoboda intervient à la télévision.
Nous nous sommes déjà dit de nombreuses fois que tout dépend de nous, de notre réflexion et de nos efforts, de notre sagesse et de notre persévérance, de notre capacité de transformer les idéaux en réalité. Il est d'autant plus douloureux qu'un événement tragique s'est produit ces jours-ci. Dimanche, un jeune homme est mort. Yann Palach. C'était un homme de caractère et d'intention pure. En tant que soldat, je sais apprécier l'abnégation et le courage personnel de Yann Palach. En revanche, en tant que président et citoyen de notre République, je ne saurais dissimuler que je n'approuve pas cette manière d'exprimer des attitudes politiques. Nous voulons que notre patrie socialiste se développe comme un pays libre et indépendant, selon des principes profondément démocratiques, et que notre peuple soit la seule véritable source du pouvoir.
L'espace au pied de la statue de Saint Venceslas est maintenant couvert de bouquets et de bougies. Un groupe d'étudiants s'y est mis en grève de la faim afin de conjurer l'ombre de la censure que craignait tant Jan Palach. Des dizaines de milliers de personnes vont suivre son cercueil qui marquera un arrêt devant la statue de Jean Hus, faut-il répéter, qu'il est lui aussi mort sur un bûcher.
Le long cortège à travers le vieux Prague s'est déroulé dans un silence total. La dépouille mortelle de Jan Palach a quitté en début d'après-midi l'université Charles pour se diriger lentement vers la faculté de philosophie.
Dès l'arrêt du convoi, les cloches des églises se sont mises à sonner à toute volée. Ensuite, les haut-parleurs ont retransmis l'hymne national. Il a été écouté dans un silence religieux et sans que le refrain soit repris par la foule.
Derrière le cercueil, la mère de Jan Palach en grand deuil, un bouquet de narcisses jaunes à la main. Derrière elle, les hauts dignitaires de l'université et l'archevêque de Prague.
Dans son homélie, l'archevêque de Prague a lancé un appel à la foule silencieuse.
Que personne ne renouvelle ce geste. Je pleure avec vous la mort tragique de Jan Palach. J'admire son héroïsme, mais le suicide n'est jamais humain.
Néanmoins, au cours des 4 mois suivants en Tchécoslovaquie, 25 autres personnes vont s'immoler, 7 d'entre elles trouver la mort. Seules 2 invoqueront des raisons politiques, Evzen Plotchek et d'abord Jan Zajíc, qui laisse cette lettre d'adieu.
Citoyens de la République tchécoslovaque, puisqu'en dépit de l'acte de Jan Palach, notre vie est en train de reprendre son cours antérieur, j'ai décidé de réveiller votre conscience en devenant le flambeau numéro 2. Je ne le fais pas pour être pleuré ou pour devenir célèbre, ni parce que je suis devenu fou. J'ai décidé de recourir à cet acte pour qu'enfin vous vous ressaisissiez et que vous refusiez de vous laisser manipuler par une poignée de dictateurs. Rappelez-vous, une fois qu'on a la tête sous l'eau, peu importe de savoir à quelle profondeur. Nous n'avons rien à craindre, sinon la mort. Or, ce n'est pas la mort qui est terrible, mais l'agonie. Et nous assistons à une lente agonie de la liberté nationale. Qui ne lutte pas, ne gagne pas. Et je ne pense pas seulement à la lutte armée. Que mon flambeau éclaire vos cœurs et illumine votre raison, que mon flambeau éclaire le chemin vers une Tchécoslovaquie libre et heureuse. Nous avons eu plusieurs chances et nous les avons dilapidées. Mon acte constitue une nouvelle chance, ne la laissez pas passer. Ainsi seulement, je continuerai à vivre, n'est mort que celui qui a vécu pour lui seul. Jan Zajíc.
En mars 1969, Dubček est écarté du pouvoir. L'année 1970, le jour anniversaire de la mort de Palach, le trouve à Ankara. Il a le titre d'ambassadeur de Tchécoslovaquie. Il est en réalité prisonnier de l'enceinte diplomatique. On espère peut-être qu'il cherchera à passer à l'ouest afin de prouver sa traîtrise. Dubček ne retrouvera de rôle que 20 ans plus tard, au moment de la révolution de velours. La mère de Jan Palach et son frère Jerzy sont étroitement surveillés, eux aussi. Ils ont enterré Jan au cimetière pragois d'Olsani. On leur extorque une demande d'exhumation. La statue qui ornait la tombe est fondue et les restes de Jan incinérés. Les communistes ne manquaient pas d'humour. Les restes de Jan seront transférés à Ousetati, mais la révolution de velours les fera revenir à Prague en 1990. Le nouveau président Václav Havel d'ailleurs prenait grand soin de chaque commémoration de Jan Palach. Celle de janvier 1989, avant même la fin du régime communiste, avait revêtu un relief particulier. Quelques dissidents de la revue Revolver avaient décidé de la terminer par un bain dans de l'eau froide. La Tchécoslovaquie, c'est le pays de Jean Hus, mais aussi celui ironiste du soldat Schweg. L'émission a été préparée par Frédéric Martin avec Franck Olivard à la technique Gilles Gaillard, une réalisation d'Audrey Ripouille. Chez vous, Mathieu Bidard.
Oui Jean, on va parler dans le club tout à l'heure des foules, des coléoptères et d'Aaron Swartz, un jeune génie de l'Internet.